Chapitre 9. Aux yeux du profane, l'attribut le plus caractéristique d'une araignée violoniste est la marque noire en forme de violon qu'elle porte sur le dos, le manche du violon pointant vers sa partie postérieure, abdomen. Tiré de Brown Recluse Spider, Michael F. Potter, entomologiste urbain, département d'agriculture de l'Université du Kentucky. L'appel arriva 3 nuits plus tard. L'équipe de Kimberly avait finalement bouclé la scène de l'accident aérien et Mac et elle fêtaient ça en dînant ensemble. Elle avait rapporté du jambon au miel, accompagné d'une salade de choux crus et de biscuits secs. Lui mangeait le jambon, elle les biscuits. « Et quand la chevalière a été toute propre, racontait-elle avec excitation, tu n'imagines pas le niveau de détail ?» On lit les mots « Alpharetta High School » gravés autour de la pierre centrale, puis sur le côté droit, le mot « Raiders », le nom de l'équipe, avec un ballon de foot, le numéro 86 et en dessous, les initiales QB. « Vraiment ?» dit Mac en se servant une bière fraîche. « Tu as le nom du lycée du gamin, plus le fait qu'il est quarterback et porte le numéro 86 ?»« Oh, j'ai même mieux. De l'autre côté de la chevalière, il y a un nom, Tommy. » Et un insigne, promotion 2006. J'ai rien de tout ça sur ma chevalière de lycée. Tu as une chevalière de lycée, bien sûr. Je t'ai jamais vu la porter. Eh, tu l'aurais peut-être vue si elle était aussi chouette que celle de Tommy. Kimberly lui fit les gros yeux, décida qu'un quatrième biscuit n'était sans doute bon ni pour elle ni pour le bébé et passa au chou cru. Donc là, j'avais un prénom, un lycée et une promo. Je me suis dit... Ok, un après-midi où je serai dans le coin, je ferai un petit tour au lycée d'Alpharetta pour discuter avec le conseiller d'orientation, et boum badaboum, le mystère sera résolu. Mais là, j'ai eu une meilleure idée. Naturellement. Je me suis branchée sur Internet, histoire de voir ce que je pourrais apprendre sur le lycée d'Alpharetta. Et qu'as-tu appris sur le lycée d'Alpharetta, mon amour? Eh, plus tu te moqueras, plus tu devras changer de couche au milieu de la nuit. Hein. Objection retenue. Elle lui jeta un regard perçant. Il haussa les épaules. « Sans rire, ça m'intéresse. J'ai passé toute la journée dans une camionnette à écouter deux prétendus dealers discuter le plus sérieusement du monde du fait que Keanu Reeves est l'acteur le plus sous-estimé de notre époque. » À cause de son rôle dans Speed ? Plutôt sa décision de ne pas faire Speed 2. C'est tellement vrai. Ok, ok. Revenons-en à la chevalière. « Eh bien, recommença-t-elle adoucie, le lycée d'Alpharetta est carrément immense. » Alpharetta est carrément immense. Ils avaient un temps envisagé d'y acheter une maison. C'était une ville en pleine expansion et en plein embourgeoisement, juste au sud de là où ils habitaient. Pour finir, ce fut cette expansion elle-même qui les effraya. Passée de 3000 habitants en 1980 à 50 000 aujourd'hui, la ville craquait de toutes parts, avec tous les embarras de circulation et carences de services publics que ce type de situation peut engendrer. Près de 2000 élèves, continua Kimberly. Ça m'a un peu inquiétée. Dans un établissement de cette taille, retrouver un gamin risquait d'être difficile. C'est là que j'ai eu l'idée de regarder la rubrique sport. Et tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert. Delilah Rose, devina-t-il obligeamment. Non. Tommy Mark Evans, quarterback de l'équipe 1 du lycée en 2006. Sa photo, ses statistiques en match, le tout sur l'autoroute de l'information. D'ailleurs, j'ai trouvé la photo et le nom de toutes les pom-pom girls des équipes 2, du club de théâtre, du club d'échecs. Quel que soit le gamin, tous les renseignements sur lui ou sur elle sont en ligne. Je vais te dire, il ne suffit plus de surveiller MySpace ou YouTube. Toutes les administrations ont des sites qui divulguent gratuitement des informations et les photos des petits Américains. Tu vois ça? Sans même quitter mon bureau et grâce à une simple chevalière, j'ai surfé jusque sur le pas de la porte de Tommy Mark Evans. « Jamais notre fils ne sera autorisé à avoir un ordinateur dans sa chambre », annonça Mac. Toute porte de sortie est aussi une porte d'entrée et je veux savoir en permanence ce qui rentre chez nous. Notre fille ne se servira sans doute jamais d'un ordinateur, répliqua Kimberly. Le temps qu'elle sache taper, tout se fera sur téléphone portable. Alors comment on pourrait bien contrôler ça? Pas de portable, ça me va. Alors tu vas être un père fouettard avec couvre-feu et fusil, Parfaitement. Mais j'offrirai aussi un poney à notre fille. Je veux dire, j'offrirai une batte de baseball à notre fils. Mais Kimberly avait surpris le lapsus et le regardait déjà avec un sourire jusqu'aux oreilles. J'ai entendu. Tu imagines une petite fille? Tout bébé bien portant et heureux sera parfait. Tu as envie d'acheter des jolies robes roses? Et c'est de ma faute à moi si les vêtements du rayon fille sont beaucoup plus mimi. Kimberly riait à présent, surtout à la pensée de son grand brin de mari, tellement viril, en train d'explorer le rayon fille. Mais c'était sans doute vrai qu'il aimait les petites robes roses. Et sans doute vrai qu'il offrirait un poney à leur enfant, de même qu'un pistolet et une formation au danger des armes à feu. « Bon, si t'as fini de te payer ma tête, » dit-il en feignant d'avoir été blessé dans sa dignité, tout en se levant pour débarrasser les assiettes en carton. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?»« Dans la mesure où jusqu'ici j'ai analysé des indices et creusé une piste dans une enquête qui n'en est pas vraiment une, exactement, Kimberly n'avait pas de bonne réponse à cette question. » Qu'est-ce que tu penses de Sal? Un type bien, qui a la réputation de ne pas lâcher le morceau et d'obtenir des résultats. Est-ce que c'est un insoumis, qui travaille mieux tout seul, se met à dos la hiérarchie? Ça serait plutôt toi, ma chérie. Exact, reconnut Kimberly. Le portable sonna. Mac leva les yeux. C'est le tien, pas le mien. Elle quitta son siège avec un soupir. Je savais que c'était une mauvaise idée de causer boulot. Quand on parle du loup, deuxième sonnerie. Elle se sentait l'estomac un peu lourd. Elle le massa distraitement en demandant à bébé McCormack de bien vouloir arrêter de boxer les biscuits et s'approcha de son sac en cuir, fouilla ses profondeurs. Troisième sonnerie. Elle finit par le trouver, regarda l'écran. C'était le numéro 1-800, le standard du FBI à Atlanta, ce qui à première vue n'avait aucun sens. Elle recevait des appels de son responsable ou de ses collègues, mais pas de la permanence. Elle haussa les épaules, prit l'appel. Agent spécial Quincy. Et là, très loin, tout bas, comme un murmure dans le noir. Aidez-moi. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Aidez-moi. Kimberly regarda vivement Mac. Fit signe de lui donner de toute urgence du papier et un crayon. Il se précipita vers le bureau de la cuisine. « Vous êtes en communication avec un agent fédéral. Donnez-moi votre nom et je ferai tout mon possible pour vous aider. »«
Je ne sais plus. Il me l'a pris. Peut-être que si j'arrivais seulement à le retrouver. »«
Qui vous l'a pris? Parlez-moi !» Mac, papier et crayon à la main, arriva à côté d'elle et la questionna du regard. Le murmure à nouveau.
« Bientôt, vous comprendrez. » La communication fut coupée.
Kimberly tenta un rappel automatique, mais le numéro était bloqué. Elle reposa son portable, profondément perplexe. Mac était encore là, prêt à prendre des notes sur un interlocuteur qui n'avait donné aucune information.
« Delilah Rose ?» demanda-t-il finalement.
« Je ne crois pas. On aurait dit un garçon. » Le téléphone sonna à nouveau, peu après 2 heures du matin. Kimberly ne dormait pas bien, comme si une partie d'elle-même attendait cet appel. À côté d'elle, elle sentit Mac se raidir à la première note stridente et sut que lui aussi avait guetté. Elle se redressa et alluma une lampe. Sur la table de chevet, elle avait placé son portable, un carnet, un crayon et un dictaphone. À nouveau, l'écran afficha le numéro gratuit du FBI à Atlanta. Cette fois-ci, Kimberly ne fut pas dupe. Elle adressa à Mac un lent signe de tête de confirmation, puis lança le dictaphone. Elle répondit à son téléphone en mode main libre pour qu'ils puissent entendre tous les deux. Agent spécial Quincy. Rien au début. Ni bonjour, ni grésillement lié à une mauvaise communication. Puis, quelque part, au loin, comme en arrière-fond, à nouveau ce faible murmure.
Chut.
Kimberly jeta un regard vers Mac. Elle leva le téléphone entre eux et, une fois son oreille plus proche, d'un seul coup, elle put entendre. Des gémissements, un halètement, le claquement d'une peau contre une autre, un cri de détresse étouffé.
« Tu aimes ça? Ça te fait du bien? » Réponds-moi.
Un petit gémissement suppliant. C'est bien ce que je pensais. Kimberly mit sa main devant sa bouche pour réprimer un cri de protestation instinctif. À côté d'elle, Max était figé. Lui aussi avait entendu. Il savait ce que cela signifiait. Ils étaient témoins d'une agression sexuelle. Kimberly le savait parce qu'elle avait déjà entendu ce genre de cassette. Cela faisait partie du travail que son père ramenait à la maison, avant de s'apercevoir que ses petites filles avaient pris l'habitude d'entrer en douce dans son bureau pour fouiller dans ses affaires.
Enregistrement. Direct. Elle ne savait pas. Mais elle avait vu les images qui accompagnaient ce genre de bande-son, et déjà son estomac chavirait.
Le murmure à nouveau, plus près du téléphone.
Chut.
Des coups à présent. Violents, métalliques. Des menottes qui frappaient brutalement une tête de lit, comme si quelqu'un essayait de s'enfuir. Puis un grincement grave, reconnaissable entre tous. Celui d'une lame qui glissait lentement sur une pierre aiguisée. D'un seul coup, Kimberly comprit que cet appel allait devenir bien plus atroce. Affolée, la main tremblante, elle essaya de griffonner ses mots en travers de la feuille.
« Trouve l'origine !»
Mac rejeta les couvertures, sauta du lit, attrapa leur téléphone fixe.
« Tu sais ce que je veux.
Mmh.
Un nom. C'est vraiment si dur que ça, un nom. Il suffit que tu aimes cette femme, c'est tout. Donne-moi quelqu'un en qui tu as confiance, que tu considères comme une amie, que tu adores. C'est tout ce que je te demande. Rien qu'un seul nom. Ensuite, je te promets que ta mort sera rapide. »
Ici l'agent spécial Michael McCormack pour l'agent spécial Lynn Stude. Je demande une assistance immédiate. Un bruit de déchirure rapide et bref. De l'adhésif arraché à la bouche. Une plainte. Un long hurlement aigu, terrifié, qui se poursuivit jusqu'à ce que Kimberly se soit enfoncé le poing dans la bouche. Et même comme cela, elle sentait ce pauvre cri épuisé résonner le long de sa colonne vertébrale. La voix, encore plus proche à présent.
Chut, dis-moi. Pitié.
Le wick-wick du métal qui tranchait, un nouveau hurlement rauque.
Je peux t'écorcher vive. Tu veux regarder?
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Ta maman te l'a jamais dit, chérie?
Y a pas de Dieu, juste moi. Je suis ton sauveur et je suis ta damnation. Et tu ferais mieux de me faire plaisir. Ou bien je vais te les découper, tes joues creuses de petites blanches.
Donne-moi un nom.
Je ne sais... Ah!
Un nom.
Pitié, non! Mon Dieu, pitié, pitié.
La fille hurlait. Elle gémissait, hystérique. Et maintenant l'homme criait aussi, exigeait encore et encore un nom, tandis qu'on entendait d'horribles bruits mouillés et le violent fracas métallique.
Kimberly se sentait prête à s'évanouir, à disparaître à l'intérieur de sa propre peau, dans une spirale qui l'emporterait loin de ce moment où une jeune fille implorait grâce pendant qu'un fou jouait du couteau.
La voix dans son oreille.
Chut. Mac, à l'autre bout de la pièce. « Lynn, j'ai besoin de retrouver tout de suite l'origine d'un appel, sur le portable de ma femme. Numéro, qu'est-ce que ça te fait, hein? Qu'est-ce que ça te fait? Ça va empirer. Je vais continuer, encore et encore, jusqu'à ce que tu me donnes un nom.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit?
Y a pas de Dieu.
Ah! Un nom, un nom, un nom. Donne-moi un...
Karen! Karen!
Karen comment? C'est quoi son nom de famille? Comment tu la connais?
Je sais pas, je sais pas, je sais pas.
Un nouveau cri aigu pendant qu'il faisait quelque chose d'horrible.
Menteuse. Si tu tenais à elle, tu connaîtrais son nom. Si elle comptait, tu te souviendrais de ce qui la concerne.
Pitié, pitié, pitié. Dernière chance, fais-moi plaisir. Ou je te jure que la prochaine entaille sera un endroit auquel tu tiens vraiment. Je compte. 1, 2.
Virginia.
Dit la femme dans un souffle.
Elle s'appelle Virginia.
Ginny Jones.
Et pourquoi tu l'aimes?
C'est ma fille. Attends.
Parfait, dit l'homme.
Et le bruit suivant n'avait besoin d'aucune explication. Mac la secouait. Avait-elle perdu connaissance? Kimberly ne voulait pas le croire.
Elle ne s'était jamais évanouie de sa vie. Elle regarda le lit avec stupéfaction. Son portable s'y trouvait, l'écran vide. Tout cela n'avait-il été qu'un mauvais rêve? Alors elle leva les yeux, vit l'air lugubre de Mac, l'inquiétude qui lui ridait les yeux. « Il a raccroché, » dit-il doucement. « C'est fini maintenant. » Mais elle secoua la tête. « Non, Mac, ça ne fait que commencer. »
Chapitre 10. La plupart des espèces d'araignées ne sont pas exigeantes quant aux insectes qu'elles consomment et attrapent tout ce qui passe. Tiré de How to Know the Spiders, 3e édition, B.J. Caston, 1978. Afin de pouvoir accueillir son invité du matin, Rita s'apprêtait à aller acheter un peu de nourriture. L'opération prenait du temps. D'abord, elle entrait dans la vieille baignoire à pattes de lion. Elle faisait couler un filet d'eau tiède, il n'y a pas de petites économies, en frottant ce qui en avait besoin avec un restant de savon Ivory. Fut un temps où elle se faisait coiffer par une gentille jeune fille en ville. C'était devenu trop cher. Le trajet en voiture aussi. Alors elle avait laissé pousser ses cheveux en un long voile fin qui lui recouvrait les épaules comme une dentelle fragile. Elle enfila un caleçon long, un pyjama de coton, un des vieux pantalons noirs de sa mère, bien ceinturé, à la taille bouffante. La chemise écossaise rouge de son père lui tombait presque aux genoux, mais elle était chaude et en bon état. Même après toutes ces années, elle conservait une légère odeur de pipe. Rita portait les chaussettes de son père aussi. Celles en laine qui tenaient bien chaud aux doigts de pied, même quand il faisait moins un dehors et qu'il soufflait un vent de tous les diables. Vinrent ensuite le lourd caban, un chapeau, une écharpe, les gants de son frère. Elle vacillait pratiquement sous le poids de ses vêtements lorsqu'elle regagna la cuisine, trouva le bocal à biscuits et compta son précieux contenu. La sécurité sociale lui versait $114.52 par mois, ce qui n'était pas mal en été quand elle faisait pousser ses légumes et cueillait des baies dans les ronces au bord du chemin. Mais l'hiver, c'était dur. Elle achetait les pâtisseries de la veille, la viande périmée, les légumes flétris. Elle se disait que tout ce qui avait mijoté suffisamment longtemps dans une marmite ne devait pas être trop dangereux à consommer. Elle s'accorda $11.45. Ça devrait faire l'affaire. D'un pas traînant, elle se dirigea vers la porte. « Bon, Joseph, » dit-elle avant de partir, « pas de blague sous prétexte que je sors. Je sais exactement où j'ai laissé mes brosses à cheveux et l'argenterie. Si tu cherches des ennuis, va jouer chez les voisins. » Madame Bradford a toujours été une pisse froide, de toute façon. Rita rit à sa propre plaisanterie, ouvrit la porte et descendit lentement les marches du perron en se tenant fermement à la rampe en bois. Ses frères et elle n'avaient jamais aimé Madame Bradford. Cette voisine les avait un jour dénoncés après les avoir surpris à manger des pommes de son arbre. Oh, elle n'avait qu'à les cueillir elle-même si elle ne voulait pas que les enfants les mangent. Avait-on jamais vu une voisine si près de ses pommes ? Madame Bradford était morte depuis 10 ans. Peut-être que Joseph pouvait la chercher, lui passer un coup de fil en direct, faire ce que font les fantômes pour se distraire dans l'au-delà. Rita trouva son rythme, une démarche balancée et régulière, et s'engagea sur la route. Elle habitait une petite rue non loin de la ville. Autrefois, le quartier était composé de grandes parcelles où trônaient de petites mais belles résidences d'été. Son arrière-arrière-grand-père avait bâti la maison familiale, une pittoresque demeure victorienne, pour s'y reposer de la chaleur d'Atlanta. Les temps avaient changé. Les propriétés avaient été vendues et divisées. Peu à peu, les anciennes villégiatures avaient disparu. Désormais, Rita vivait au milieu d'un étrange patchwork de maisons coloniales en préfabriqué, de grands mobilhomes et de maisons de plain-pied. Elle supposait que ses voisins étaient de jeunes couples, des gens qui travaillaient dans les restaurants et les hôtels pendant la saison d'été et d'automne, où les touristes étaient 10 fois plus nombreux que les résidents, et où acheter ne serait-ce qu'une miche de pain devenait une vraie corvée. Rita ne savait pas. Elle ne sortait pas beaucoup de chez elle et ne fréquentait pas ses voisins. Elle était trop occupée avec les morts. Mais elle croyait savoir d'où venait le garçon. C'était une des dernières maisons de maître, mais aujourd'hui les peintures étaient écaillées, les fenêtres gauchies, le portique de guingois. Rita y voyait parfois de la lumière, au milieu de la nuit, à l'heure où les bonnes gens devraient dormir au lieu de rester les yeux grands ouverts dans leur lit, comme cela lui arrivait si souvent. Les habitants de cette maison avaient des horaires bizarres. Cette maison correspondait à l'idée que Rita se faisait de gens qui auraient un garçon à moitié mort de faim qui passait son temps à attraper des araignées. Elle arriva enfin au magasin, contourna les voitures boueuses et ourlées de neige, passa devant les pompes à essence et entra dans la petite boutique qui sentait toujours le diesel et la cigarette. Elle commença par parcourir les allées pour procéder à un soigneux inventaire. Du pain, des œufs, du lait. Elle loucha sur le bacon. Il y avait longtemps qu'elle n'en avait pas mangé, mais vu le prix, c'était exclu. Les garçons aiment les céréales. Seigneur, toutes ces boîtes qu'elle consommait quand elle avait des garçons à la maison. Pas de ces céréales glacées au sucre, elle ne tenait pas à ça. Mais les autres marques, les classiques. Elle lut le prix affiché avec attention. Elle n'avait aucune idée que le blé soufflé pouvait coûter aussi cher. Voyons, de son temps. Pour finir, elle s'en tint à son premier choix de 3 articles. Il faudrait faire avec. Mel tenait la caisse. Elle le voyait pratiquement chaque fois qu'elle venait, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines. Il la salua d'un signe de tête, souriant de son étrange accoutrement. « Promenade frisquette, Rita ?»« Pas une fois que j'étais en train. »« De quoi faire le petit déjeuner, je vois. »« Oui, ça m'a l'air bien. Il vous manque que des saucisses. »« J'en ai en promo, si vous voulez. 2 paquets pour le prix d'1. » Elle prit un instant de réflexion. Des protéines feraient du bien aux garçons. Oh, et l'odeur des rondelles de saucisses chaudes en train de dorer dans la poêle en fonte de sa mère. Elle soupira, compta sa monnaie. Ça va, merci beaucoup, Mel. Pas de problème. Il emballa ses achats pour elle, puis eut l'air inquiet. Ça ne me dit rien qui vaille, ce sac, Rita. Surtout si vous avez dans l'idée de rentrer à pied. Oui, monsieur. Je pourrais vous raccompagner d'un coup de voiture. Les jambes que Dieu m'a données vont très bien. Bon, si vous y tenez, je peux peut-être aller dans la réserve vous chercher un carton à la place. Ça m'ennuierait que vous laissiez tomber ces œufs. Comme vous voulez. Mais elle revint quelques instants plus tard avec un petit carton dans un sac plastique. Il disposa le tout pour qu'elle puisse tenir les poignets et elle s'en alla. Elle lui adressa un dernier salut de la tête en prenant congé. À mi-chemin de chez elle, pendant une pause, elle regarda dans son sac. Il avait ajouté 2 paquets de saucisses et 1 boîte de Earl Grey. Un instant, elle fut presque terrassée à la perspective d'utiliser un tout nouveau sachet de thé au lieu d'un sachet flasque et fatigué, inutile depuis 3 ou 4 immersions. Un jour, il faudrait qu'elle remercie Mel, mais cela reviendrait à reconnaître ce qu'il avait fait. Et jusque-là, ils avaient tous les deux préféré ce système. Le retour lui prit beaucoup de temps. Elle commençait à se sentir un peu chancelante, oscillait de plus en plus à chaque pas. Ce serait bon de rentrer, de prendre une tasse de Earl Grey brûlante, noire et forte. Elle se prélasserait dans le salon comme son père à l'époque, ferait peut-être un petit somme. Mais lorsqu'elle ouvrit sa porte, elle découvrit qu'elle avait un invité. Le garçon était déjà revenu. Sauf que cette fois-ci, il n'attendait pas sur la terrasse de derrière. Debout dans son salon, il tenait un portrait de famille dans son cadre. Pendant un long moment, ils restèrent à se dévisager. Puis Rita entra chez elle d'un pas assuré, referma la porte, défit son écharpe. « Mon garçon, la bonne façon d'entrer chez les gens, c'est de frapper à la porte et de demander la permission. Tu as frappé à ma porte ? Tu as demandé la permission ? « Non, madame. Alors ce n'était pas la bonne façon d'entrer chez moi. Ne recommence plus. »« Oui, madame. » Cette question réglée, Rita enleva son manteau, ôta son chapeau. « J'allais me faire du thé, mais je suppose que je pourrais faire un chocolat chaud à la place. » Le regard du garçon s'illumina. « Je n'ai pas de marshmallow, » prévint-elle. « Trop cher, ces bêtises-là. » Il hocha la tête. Elle passa à côté de lui d'un pas traînant, en faisant mine de ne pas voir sa façon de la regarder par en dessous, ni la lame effilée qui dépassait de la poche arrière de son jean. « Quand votre heure a sonné, votre heure a sonné. » Rita le savait. Mais elle était une vieille chouette coriace, et elle se disait que le garçon découvrirait bien vite qu'elle avait encore beaucoup de temps devant elle.